is not the path I would have chosen, but I'll follow you to the end. Lord, as long as I am breathing, I will make your glory known, even if it means I'm walking on this desert road. The past that held regret over my head is gone. These chains are ashes now that once were rusted on. I was a rot away, now I am finally home. My mind was a ghost town haunted by yesterday, until your hand reached down, pulled me out of my grave, into the freedom found only in Jesus' name. I am forgiven, no longer lost. Now I am living in the power of the cross. Gave his son so I could be set free, and now the scales are gone, my eyes can finally see. I'll tell the world of all Jesus has done for me. I am forgiven, no longer lost.
Welcome my joy,
cause I'm living,
now I am living
in the power of
Jesus, I thank you. Thank you for the cross. Praise you. Oh God, I praise you. Jesus, I praise you. Praise you for the cross. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. There's a wound here in my heart, something's missing. And they tell me that it's gone and healed for time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't be long to me. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down.
J'invite les derniers à s'asseoir encore. On va commencer le culte.
On the hands that hold you now.
Bonjour et bienvenue dans ce culte. J'espère que vous êtes contents d'être là. Et puis, ça fait toujours plaisir de se retrouver ensemble en famille, dans la maison du Seigneur, de le louer, de partager sa parole et d'être entre frères et sœurs. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois aussi, peut-être qu'il y en a. Et puis aussi à ceux qui nous suivent en streaming sur tablette. J'aimerais commencer par lire un psaume que vous connaissez peut-être, mais c'est pas grave, parce qu'il est tellement beau. C'est le psaume 96. Alors, on va lire le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et il est très digne de louange. Il est redoutable plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face. La puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez-lui gloire. Rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres de la forêt lancent des acclamations devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. C'est un psaume que j'aime beaucoup et que je trouve qui est assez d'actualité. Et je vous invite à la prière. Père Céleste, merci de pouvoir nous réunir tous ensemble aujourd'hui. Merci pour le privilège de te connaître. Merci pour ce temps mis à part pour nous ressourcer et fixer nos regards sur toi. Père, nous t'aimons et nous savons que tu t'occupes de nos frères et sœurs malades, dans le deuil. On a une pensée particulière pour Sylvie Ménétret, qui n'est pas bien, que tu puisses la bénir. De tous ceux qui sont malades et qui sont à la maison ou à l'hôpital. Tu t'occupes aussi de nos envoyés, que tu équipes pour répandre ta parole au loin dans la mission que tu leur as confiée. Nous te prions, Père, pour les chrétiens persécutés. Aide-les à tenir bon dans leur foi jusqu'au bout, qu'ils se sentent soutenus par nous, par nos prières, de tous leurs frères et sœurs dans le monde qui prient pour eux. Et Seigneur, nous te prions spécialement pour les pays en guerre, que ce soit en Russie ou en Ukraine, ou dans tous les pays en guerre dans notre monde. Aie pitié, Seigneur, que des personnes, un grand nombre de personnes se tournent vers toi, et que ce soit parmi le peuple russe, ou par le peuple d'Ukraine, ou quelque pays que ce soit que tu as créé chaque personne, et chacun est précieux à tes yeux. Tu ne fais aucune différence. Aide-nous aussi à ne pas faire de différence, et à voir chacun avec tes yeux et avec ton cœur. Toi seul peux transformer des tragédies en bénédictions. Aide-nous à croire que tu tiens tout entre tes mains et que rien n'est dû au hasard. Merci d'ouvrir nos cœurs et de te laisser travailler pour te ressembler toujours plus, que tu nous remplisses de ta présence. Reçois toute la louange et l'honneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Je vais juste chercher un petit... Salut les enfants, ça va? Cool. Et vous avez fait le bon choix de venir ce matin. Vos parents, ils ont fait le bon choix de vous réveiller et de venir à l'église. Vous êtes contents d'être là? Super. Oui, il y a un petit nom, hein, mais... C'est toi qui t'es réveillé? Parfait. Ah, c'est toi? Eh ben voilà. Vous avez emmené vos parents, c'est encore mieux. Moi, je suis un peu curieuse. Dans vos groupes, les renards et les lucioles, vous vous appelez? Vous avez sûrement parlé d'une personne en particulier. Est-ce que vous vous rappelez de qui vous avez parlé ces derniers temps? Dieu, Jésus, bravo, tu t'en souviens bien, super. Vous avez parlé de Jésus à partir de quand tu étais tout petit. À 12 ans, ouais. Ouais, c'était l'autre fois. Vous avez commencé par tout petit. Et puis aujourd'hui, vous allez parler quand il est adulte et puis qu'il va faire des disciples et c'est vos moniteurs qui vont vous expliquer ce que ça veut dire. Est-ce que vous pensez que Jésus, quand il était sur la terre, il était comme vous? Non. Non? Qui c'est qui pense? Il faisait pas les fous comme vous? Si, peut-être qu'il faisait les fous comme vous. On ne sait pas. En tout cas, est-ce que par exemple, il allait à l'école, vous pensez? Non. Tu ne penses pas? Pas d'école. Ah, si, il y avait de l'école. Peut-être qu'il faisait l'école à la maison. Peut-être. Moi, je pense qu'il a appris à compter, il a appris à lire, à écrire, comme vous. Et puis, je pense qu'il s'est aussi, des fois, écorché les genoux en jouant dehors. Il est allé chez sa maman, mettre un pansement. Enfin, je pense que ça existait. Hein? Et puis, il y a une chose qu'il n'a pas fait comme nous. Mais vraiment, pas fait du tout. Jamais. Le péché. Bravo! Le péché. Mais dis donc, t'en connais un sacré rayon, hein? Bravo. Il n'a jamais péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le péché? Vas-y.
Ça veut dire qu'il fait des bêtises.
Ça veut dire qu'il fait des bêtises, oui. Il y a des exemples?
Ouais.
Ouais.
Casser des verres.
Casser des verres, ok. Pourquoi pas? Oui.
Mettre de la peinture dans toute la maison.
Mettre de la peinture dans toute la maison. Ça sent un petit peu l'expérience.
On peut aussi parler de... Oui faire des choses un peu pas très... Ouais, voilà, faire des bêtises. Ok, on peut aussi dire quand on vole, par exemple, quand on ment, quand on triche. Oui, alors ça je ne vais pas le dire, mais oui, quand on fait des insultes, voilà, quand on se moque de quelqu'un, ouais. Quand on dit des gros mots, voilà, vous avez bien compris ce que c'est un péché. Voilà, les critiques, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et quand on est enfant, on fait ça, mais quand on est adulte, malheureusement aussi, et même quand on est des personnes âgées, on fait des péchés, parce que tout le monde fait des péchés. Voilà, sauf Dieu, ça on est d'accord. Voilà, mais tout le monde, humain. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait quelque chose qu'on regrette, parce qu'on a par exemple menti, ou qu'on s'est moqué? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on regrette? Prier. Et on peut aussi dire pardon. C'est juste, exactement. Et on dit pardon à qui? Bravo, à celui qu'on a offensé et à Dieu. Exactement. Alors, vous avez été à l'école du dimanche ou chez vos parents, bravo, c'est super. Ça fait vraiment plaisir à entendre. C'est vraiment magnifique, vous avez compris déjà une bonne partie. Alors, je voulais juste illustrer... Hop là, pardon. Je voulais juste illustrer ce que je viens de vous dire. Alors, vous avez déjà mis des chaises empilées. Les chaises empilées, ça représente les péchés. Parce que souvent, on en fait beaucoup. Il pourrait y avoir des fois des piles jusqu'au plafond, mais voilà. On peut aussi parler des soucis. On va dire que c'est aussi les soucis. Les péchés et les soucis. Et ici, la lampe, là, ça représente Dieu. C'est pratique parce que chez moi, j'ai une lampe à trois lampes. Ça représente Dieu. Et Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, c'est juste parfait. Quand on a des péchés ou qu'on n'est pas content avec quelque chose, on est ici. On voit son péché et puis... On dit, Dieu, je te demande pardon, regarde, j'y arrive pas, et puis j'ai des soucis, et puis ça va pas. Et vous voyez, derrière moi, il y a une lumière qui fait de l'ombre. Alors, on voit pas bien sa lumière, mais normalement, la lumière derrière, elle me fait de l'ombre, et je suis dans l'ombre. Et je vois mon péché tout le temps devant. Et quand j'essaie de m'en éloigner, comme ça, eh ben, j'arrive pas bien, parce que je suis tout le temps attirée par ça, et j'ai toujours l'impression de devoir, voilà, j'y reviens. Et quand on va quelque part, par exemple, vous prenez votre vélo, vous voulez aller quelque part, vous allez en marche arrière? On peut aller en marche arrière? Non, en avançant. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut ne pas voir son péché?
Se tourner.
On fait demi-tour, hop! Et on voit le péché, il est derrière. Et qu'est-ce qu'on voit?
Dieu.
On voit Dieu. Et la lumière, est-ce qu'elle nous attire? La lumière attire. Donc, je marche vers la lumière. Mon péché, je le laisse derrière et j'essaye de ne plus regarder. Ça arrive des fois que je refasse comme ça, je dis « Ah non, il faut que je fasse comme ça. » Voilà. Et plus j'avance, plus je vois la lumière, plus elle m'éclaire. Et chaque fois que je fais un peu plus, elle m'éclaire et elle remplit encore plus dans mon cœur. Et je m'approche de Dieu et quand on s'approche de Dieu, on s'éloigne du péché. Et dans mon petit potager, là, petit magazine, vous avez un verset qui est écrit... qui est écrit dedans, là, et c'est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est dans Jacques 4, verset 8. On s'approche de Dieu, il s'approche de nous et on s'éloigne du péché. Et c'est vrai que quand on donne son cœur à Jésus, qui est la meilleure chose qu'on puisse faire dans notre vie, Dieu remplit de sa lumière, de son pardon. Il nous pardonne. Chaque fois qu'on donne pardon, il nous pardonne. Même si on retourne, on revient, il nous accueille chaque fois à bras grand ouvert. Il est jamais en train de dire non, allez, on va te faire tomber, tant pis pour toi. Toujours, on nous accueille, toujours. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui dire merci et pour le remercier? Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu quand on le remercie? Parce qu'il nous a pardonné. On le remercie. On le prie, on le remercie, puis on peut aussi le chanter. Et quand on le chante, on le loue, justement pour ce qu'il a fait pour nous. Alors, on va le chanter ensemble.
Beaucoup. Je vous inviterai à vous lever et puis on va lui chanter notre joie, notre amour pour lui, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous détourne du péché, parce que quand il y a tout qui va mal, ou quand il y a tout qui va bien aussi, il est avec nous jusqu'à la fin des temps.
Miséricordieux,
grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
Entre les enfants et les moteurs, Nicolas et Chantal, et aussi la galerie, pour que tu puisses travailler les cœurs des enfants, que tu fasses pousser les graines qui sont semées dans leur cœur. Veille derrière les moniteurs pour qu'ils soient inspirés par ton Saint-Esprit et veille vraiment leur mettre la paix dans leur groupe et la joie. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à prendre ce chant comme un chant de consécration, vraiment, qu'on veut être à lui. Vraiment repenser à ces dernières paroles qu'on vient de chanter. Je suis à toi, nous sommes à lui. Seigneur, ce matin, on aimerait te dire, on vient humblement devant toi pour apprendre ce que tu as à nous enseigner, Seigneur. Brise nos cœurs de pierre, faisant des cœurs de chair, brise notre orgueil, Seigneur. Qu'on puisse mettre de côté nous, tous nos préjugés, tout ce qu'on a pensé, et tourner vers toi et changer de vie.
Éclaire ce monde de ta lumière. laver ta pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre, Père.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre belle je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Amen, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin de nos vies, parce que tu nous accompagnes. On veut vraiment te dire ce matin à quel point on t'appartient, nous sommes à toi. On te chantera gloire dans les moments faciles, dans les moments difficiles. On veut se souvenir ce matin que tu es mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous sauver, Seigneur. Merci pour qui tu es simplement. Amen.
Voilà, je vais juste dire quelques mots pour présenter notre invité du jour. Donc Virginie Moret, qui est pasteur à l'église de Colonie. Et aujourd'hui, Philippe Anchaud, notre pasteur, fait, on appelle ça un échange de chair, alors pas la chair, voilà, et la chair genre ça, voilà. Donc c'est un mot un peu bizarre, donc on dit que voilà, elle vient, il va. C'est plus simple. Virginie, elle est pasteur donc là-bas, elle est maman de deux enfants, deux filles, Clara qui a bientôt 2 ans et demi et Prisca qui a 11 mois. Et puis, elle est aussi mariée à Jean-René, qui est quelque part là-bas au fond. Bienvenue, Jean-René. Voilà, je vais prier pour toi, Virginie. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu as mis sur le cœur de Virginie et parce qu'elle va partager quelque chose de ta part. Veuille la bénir et que ton Saint-Esprit repose sur elle pour que ta parole soit annoncée et comprise dans nos cœurs. Que chacun puisse repartir de ce lieu avec quelque chose en plus de ta part qui nous fasse avancer dans notre foi et dans notre amour pour toi et pour notre prochain. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.
Bonjour. Merci pour votre accueil. Et je profite aussi de vous transmettre les chaleureuses salutations de l'Église évangélique de Colonie. C'est toujours un plaisir de pouvoir entretenir nos relations, aussi par ces échanges de prédicateurs. C'est un peu plus facile à comprendre. Voilà. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Et si on n'est pas d'accord ?» Ça veut dire « Qu'est-ce qu'il lui prend ?» Non. Peut-être vous raconter une petite histoire pour illustrer un peu de quel genre de désaccord je peux vouloir parler. Vous savez, il y a ces moments où voilà, on est ensemble avec d'autres chrétiens et il survient un moment où on remarque qu'on n'a pas tout à fait le même arrière-plan, les mêmes habitudes, sur des choses qui ne sont pas essentielles à la foi, pas non plus sur des choses qu'on appellerait un péché, mais juste des choses où on ne fait pas pareil. Moi, je me rappelle d'un moment où, quand j'étais étudiante, j'étais dans les groupes bibliques des écoles et universités, et des fois, on partait en camp ensemble. C'est des groupes qui rassemblaient des chrétiens de différentes églises, et comment dire, il y avait un certain groupe qui était issu de l'église adventiste, dont un très bon ami à moi avec qui j'ai fait une partie de mes études. Et pour ces chrétiens, c'était important de respecter un jour de repos. Un jour où ils ne faisaient pas de travail pour les études, là ils ont pu m'apprendre des choses, hein. Un jour où, quand ils ont dit, ben voilà, je place ma confiance en Dieu, je lâche prise, je remets ça à Dieu. C'était aussi un jour dans lequel on ne faisait pas de tâches ménagères, de courses, de cuisine, voilà. Et ben voilà. Et c'était pour eux, c'était important, il faut le noter, que ce jour soit le samedi. Quand on partait en camp avec les GBU, les camps, ils se terminaient généralement les samedis. Je ne sais pas si vous voyez le problème pointé à l'horizon. Parce que qu'est-ce qu'on fait le dernier jour d'un camp ? On nettoie toute la maison, on nettoie le chalet. En général, on est fatigué du camp et puis il faut passer la serpillière, voilà. Mais pour eux, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Parce que pour honorer Dieu, pour honorer le jour de repos que Dieu avait ordonné pour eux, eh bien, il fallait ne pas faire ce genre de choses le samedi. Ce qui, pour le reste d'entre nous, semblait, c'est pas incompréhensible, mais voilà. Et comment dire, c'est plutôt un moment où la plupart des gens ont une très bonne attitude. Eux, d'un côté, ont cherché tout ce qu'on pouvait nettoyer le vendredi. Ils ont nettoyé les fours à quatre pattes de la cuisine, voilà, ce genre de choses. J'avoue que des fois, moi, j'aurais été tentée de râler dans mon coin. Parce que voilà, le samedi, en passant le balai, une activité que j'aime pas particulièrement, les pensées de « mais ils auraient quand même pu nous aider, et puis c'est pas difficile de passer le balai, ils pourraient se reposer dimanche », elles peuvent vite arriver. Donc, mais je pense que notre foi chrétienne nous appelle à vivre ce genre de désaccord autrement qu'en râlant et en se jugeant et se méprisant les uns les autres. Et pour un peu explorer les pistes, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là ? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on vient d'arrière-plan différent, qu'on n'est pas d'accord sur des points qui sont secondaires, qui ne sont pas de l'ordre du péché, eh bien, je vous propose de partir à la découverte d'une situation qui était dans l'Église, qui avait lieu dans l'Église de Rome, et de regarder qu'est-ce que Paul recommande à cette Église. Cette Église était constituée au moins de deux groupes de personnes qui avaient aussi quelques désaccords. Il y avait un groupe, probablement minoritaire, qui était issu du judaïsme, donc des juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, et pour qui c'était important de respecter des lois de l'Ancien Testament, notamment au niveau alimentaire. Il y avait un autre groupe, majoritairement issu de cultures non-juives, et certains juifs aussi, qui ne voyaient pas pourquoi on était censé se tenir à des lois alimentaires de l'Ancien Testament, et qui pensaient qu'en Christ, ils avaient la liberté de manger de tout. On peut voir ces désaccords dont... Voilà, tout le texte, tout ce que je vais dire est tiré de Romains 14 à 15. Je ne vais pas lire l'entier, parce que ça fait deux chapitres, c'est beaucoup, mais je vais citer beaucoup de versets au long de cette prédication. Et si ça vous a intéressé, que vous êtes encore sur votre faim, vous pouvez étudier ces deux chapitres après. Mais voilà. Un premier désaccord, c'était manger de la viande ou ne pas manger de viande. Paul écrit, par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Et là, il faut savoir que des gens de culture juive, quand ils vivaient dans des endroits en dehors d'Israël, surtout dans des quartiers où ils ne savaient pas comment la viande avait été préparée, ainsi de suite, et qu'ils n'étaient pas sûrs qu'elle était cachère, ils préféraient ne pas en manger du tout. C'est pour ça qu'ils parlent de manger que des légumes. Un deuxième désaccord était sur le respect de certains jours, comme le sabbat, des fêtes juives. On voit Paul qui écrit « Pour une personne, certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que pour d'autres, ils sont tous pareils. » Puis il y avait un troisième désaccord qui mentionne juste en passant sur « boire du vin ». Ce qu'on peut noter aussi, c'est que toutes ces personnes, elles cherchaient à honorer Dieu par leur comportement. Paul, il écrit « Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier » le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout, le fait également pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. Et la personne qui ne mange pas de tout, le fait pour honorer le Seigneur, elle aussi remercie Dieu. Donc tout le monde essayait d'honorer Dieu par son comportement. Personne n'était en train de dire que c'était un élément central de la foi chrétienne, qu'il fallait faire ça pour être chrétien. Mais voilà, ils n'étaient pas d'accord sur les pratiques. Et il y avait un risque de se juger, de se mépriser les uns les autres, qu'on peut aussi voir dans ce que Paul leur recommande, où il écrit « Mais que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de viande, et que celui qui ne mange pas de viande ne juge pas celui qui mange de tout. » On peut bien s'imaginer un peu ceux qui ne mangeaient pas de viande, un plus petit groupe, se dire, au moins, nous, on est restés fidèles. Le petit reste fidèle à Dieu, alors que tous ces autres qui mangent du jambon, c'est quand même scandaleux, ils n'honorent pas Dieu par leur comportement. Et à l'inverse, l'autre groupe qui se dit, qui méprise en fait le plus petit groupe, qui se dit, mais voilà, au Christ, on est libre de tout manger, ils n'ont pas compris ça. Et qui les considère un peu comme, on va dire, des chrétiens de seconde zone. Vous vous demandez, que fait Paul face à tout ça? Et on va dire que c'est un grand exemple, en fait, dans sa manière d'aborder le sujet. Parce que la première chose qu'on peut noter, c'est que Paul a un avis sur la question, en fait. Il écrit à un moment, mais quasiment en passant comme ça, « Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. » Donc Paul affirme là qu'un chrétien peut manger de tout, il peut manger de la viande, il est d'accord avec le groupe majoritaire dans l'Église. Mais dans aucun moment de ce passage, on le voit développer ce point. Il est en fait beaucoup plus soucieux du vivre ensemble de l'Église, de créer un contexte dans lequel chacun peut progresser dans la foi, dans sa marche avec Dieu. Et il va leur donner 4 clés pour avancer. Et on va voir que chaque fois, en fait, il les ramène à quelque chose de plus central de l'Évangile. Il les ramène à Jésus-Christ, à son amour, à son exemple. Et comme pour leur dire, en vous centrant en fait sur l'essentiel, vous allez pouvoir dépasser ce désaccord, vivre ensemble avec ça, et chacun de vous va pouvoir grandir dans sa foi. On le voit, la première recommandation qu'il fait, il le recommande l'accueil et le non-jugement. Voir qu'il écrit « Accueillez la personne qui est faible dans la foi, sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de viande, et que celui qui ne mange pas de viande ne juge pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli lui aussi. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il demeurera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Et toi, pourquoi méprises-tu ta sœur ? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Ainsi, chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Il commence, Paul, tout son passage en recommandant à ceux qui se pensent plus forts d'accueillir ceux qui sont plus faibles de la foi, ceux qui n'ont peut-être pas encore compris toutes les conséquences de l'œuvre de Jésus-Christ pour leur liberté sur le plan alimentaire, par exemple. Ce qui était le cas là, je vous laisse remplir par d'autres choses. Je pensais le dire au début d'ailleurs, hein, mais j'ai aucune situation concrète en tête. Hein, j'apporte cette prédication parce que je pense que c'est quelque chose auquel on fait tous face une fois ou l'autre, mais il n'y a pas d'idée au fond de ma tête ou je ne sais quoi. Mais voilà, Paul recommande l'accueil de celui qui est plus faible dans la foi. Et c'est important en fait, ce mot il est fort, c'est l'accueil dans le cercle d'amis, c'est l'accueil dans sa maison. Il s'agit d'intégrer l'autre pleinement, entièrement à la communauté chrétienne, de le regarder comme un chrétien au même titre, au même rang que les autres. Parce que je pense qu'il pouvait y avoir le danger de se dire, ben voilà, on va tolérer leur présence, on est gentil, on leur laisse les deux derniers ronds derrière, et puis on leur fait bien sentir que c'est pas tout à fait... Allez-vous, mais bon, voilà. Non, il dit accueillez ces gens. Faites communauté ensemble, tous. Et puis il continue en disant, mais voilà, ne vous jugez pas les uns les autres, hein, pas un groupe assis d'à côté, un à droite, un à gauche, et puis où au final on se lance les reproches et les insultes d'un côté à l'autre. Non. Et puis, pour bien illustrer, disons, pour bien illustrer ça, en fait, il les ramène à un principe plus fondamental. Il dit, mais Paul leur dit, mais l'autre, c'est le serviteur de qui ? C'est pas mon serviteur. Il n'est pas là pour me plaire. Mon frère, ma sœur, c'est le serviteur de Dieu, tout comme moi, je suis au service de Dieu. Et finalement, c'est l'affaire de Dieu. Cette personne qui cherche à honorer Dieu par son comportement, et moi qui cherche à honorer Dieu par mon comportement, qui est peut-être un peu différent, mais c'est Dieu qu'on cherche de servir, et c'est à lui qu'on rendra des comptes pour qui ? Ben pour soi-même. Et donc, il leur recommande, ben voilà, regardez à vous, regardez à Dieu, et l'autre, voyez-le comme le serviteur de Dieu. La deuxième chose que Paul va recommander, c'est de ne pas mettre la pression. C'est-à-dire de ne pas forcer l'autre à rentrer, à faire comme moi je pense que c'est bon. On peut lire dans la suite de Romains 14 où il dit « Jugez plutôt préférable de ne rien faire qui amène l'autre, qui amène quelqu'un d'autre à se détourner de Dieu ou de la foi. Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. » Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle le devient pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère ou à ta sœur à cause de ce que tu manges, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de quelqu'un pour qui le Christ est mort simplement pour des questions de nourriture. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de critiquer. En effet, le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des êtres humains. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et qui nous permet de nous entraider de manière constructive. Là, il dit, ne mettez pas la pression aux autres, ne les forcez pas à entrer dans votre manière de voir, sous la contrainte, j'ai envie de dire. On ne sait pas exactement quel genre de comportement Paul essayait d'éviter. C'est que moi, je me suis dit, j'imaginais bien 10 personnes autour d'une table, dont 9 mangent un bon bout de jambon et le 10e mange des carottes. Et puis, les 9 en train de sourire un peu, de se faire du coup, de dire, t'as vu, ils ne mangent pas le jambon. Et puis, de dire, allez, mais si t'étais un chrétien fort, tu mangerais du jambon. Et puis, de voir le 10e qui cède à la pression du groupe, en fait, qui... contre sa conscience, en pensant que ce qui fait déshonore Dieu, préfère manger du jambon pour plaire au groupe. Et dans ce sens-là, son attitude est réellement, en fait, une offense à Dieu, risque réellement de l'éloigner de lui, pas parce que manger du jambon est un problème en soi, Paul y dit bien, je sais que rien n'est impur en soi, mais parce que la personne, elle aura fait ce qu'elle a fait en préférant plaire aux hommes que plaire à Dieu. Et puis, dans ce sens-là, il dit, mais ne visez pas à changer le comportement des gens sur ce genre de point par la contrainte, sans qu'ils aient, en fait, d'abord changé leur compréhension de Dieu, leur compréhension de la situation. Peut-être que ces gens vont grandir dans la foi, dans leur compréhension de la liberté en Jésus-Christ, et un jour, ils mangeront une tranche de jambon en bonne conscience. Mais ne les forcez pas avant qu'ils soient prêts, ça va faire des dégâts. Paul est en train de le dire, ça va les éloigner de Dieu, ça va les éloigner de la foi. Et pour bien illustrer, mettre en perspective, leur dit, mais ce frère, cette sœur, c'est quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Vous n'allez pas l'éloigner de Dieu pour une question de nourriture, ce serait quand même vraiment bête. Et par tout ça, voilà, il cherche à créer une ambiance dans laquelle chacun peut grandir dans sa foi, cheminer avec Dieu. Et il dit, mais en fait, ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est pas de manger ou de pas manger, c'est l'amour. Conduisez-vous selon l'amour. Le règne de Dieu, il consiste en justice, en paix, en joie que donne l'Esprit. Il dit, celui qui sert le Christ de cette manière, il plaira à Dieu, peu importe ce qu'il mange, finalement. Donc, voilà, cherchons ce qui est constructif, ce qui nous aide les uns les autres à avancer dans l'amour, sans mettre la pression à quelqu'un pour qu'il se comporte comme j'aimerais bien, sur un point où finalement devant Dieu c'est pas très important. Et Paul, justement, approfondit ce point dans un troisième passage où il dit, mais cherchez à plaire aux autres plus qu'à vous-même. Il nous dit, nous qui sommes forts, nous avons une obligation. Prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit dans ce passage, mais cherchez pas ce qui vous fait plaisir à vous-même, au détriment des autres. Il dit finalement, bas à l'égoïsme. Voilà, si, quand vous mangez tous ensemble, j'imagine un peu, on ne sait pas exactement de quoi il parle, mais voilà, si vous mangez tous ensemble et qu'il y en a un qui ne mangerait pas de viande et qui se sentirait sous pression si tous les autres autour mangent un morceau de jambon, mais en fait, par amour pour cette personne, mangez des carottes. Cherchez le bien de votre prochain. Et il ancre ce point en disant, mais voilà, Jésus non plus, il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il est venu nous chercher. S'il avait cherché son plaisir, son bonheur, il ne serait jamais venu sur terre. Vivre avec des êtres humains pécheurs, souvent désagréable. Il ne serait pas mort pour nous. Il ne serait pas ressuscité. Et on serait toujours encore loin de Dieu. Donc il dit Jésus-Christ non plus, il n'a pas cherché ce qui lui faisait plaisir. Il est venu nous chercher. Et dans ce sens-là, quand on est avec quelqu'un qui chemine avec Dieu et où certains de nos comportements, où on sait qu'ils ne sont pas mauvais en soi, mais qui éloigneraient cette personne de Jésus-Christ, eh bien, allons plutôt à la rencontre de cette personne. Cherchons-la, aidons-la à avancer. Créons ensemble un environnement dans lequel chacun peut avancer de manière constructive. Et il dit, ça aura un résultat magnifique, en fait. Tous ensemble, d'une seule voix, malgré des désaccords sur des points secondaires, vous louerez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un but de l'unité, de l'adoration aussi. Et il termine en résumant et en appelant à l'accueil. Il dit, mais en résumé, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. En effet, je vous l'affirme, le Christ s'est mis au service des Juifs pour attester que Dieu dit vrai. En cela, il a confirmé les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres. Et du même coup, ceux qui ne sont pas juifs louent Dieu pour sa bonté, comme le déclare l'Écriture. Et après, on voit Paul citer plusieurs textes de l'Ancien Testament qui montrent que Dieu avait ce but de réunir des gens d'arrière-plan juifs, des gens d'arrière-plan non-juifs en Jésus-Christ. Donc il dit, mais accueillez-vous les uns les autres. Pourquoi ? Mais parce que Jésus vous a accueillis les uns et les autres. Il est venu, il a accueilli des personnes d'arrière-plan juifs, il a accueilli des personnes d'arrière-plan non-juifs. Si Jésus a accueilli mon frère, ma sœur qui est à côté de moi, qui serais-je pour ne pas l'accueillir ? J'ai pas le droit, j'ai envie de dire, de rejeter quelqu'un que Jésus a accueilli. Ça n'aurait pas de sens. Donc il fonde cet accueil mutuel finalement sur Jésus-Christ, sur son œuvre, sur sa personne. Et on peut voir que c'est quelque chose qui fait tout au long des quatre points que je vais résumer brièvement, enfin, de cette prédication. Hein, Paul nous a dit, mais voilà, ne nous jugeons pas les uns les autres, parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu, et c'est lui qui jugera de nos actions. C'est à lui que nous devrons rendre des comptes. Il continue en disant, mais ne risquez pas d'éloigner quelqu'un de la foi pour un désaccord mineur, j'ai envie de dire. Quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort, ne l'éloignons pas de Dieu pour quelque chose qui n'est pas essentiel à la foi chrétienne. Continue en disant, mais ne soyez pas égoïste. Recherchez à créer un environnement dans lequel chacun peut grandir dans sa foi. Prenez les gens là où ils sont, ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir rester là où ils sont. On a tous besoin d'avancer, de s'aider les uns les autres pour avancer. Mais ne rejetez pas des gens qui, après, ne pourront plus avancer. Et il termine en disant, mais accueillez-vous les uns les autres, parce que Jésus-Christ nous a tous accueillis. On voit que à chaque fois, il dit, en fait, changez de regard. Adoptez sur l'autre le regard que Jésus-Christ pose sur lui. Considérez-le comme quelqu'un qui est au service de Dieu, comme quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort, quelqu'un que Jésus-Christ nous appelle à aimer et qu'il a accueilli. Et j'ai envie de dire, après, quand on fait ce changement de perspective, les désaccords qu'on a, ils ne sont pas forcément résolus, mais ils reprennent leur bonne place. Et dans nos vies, dans nos communautés, nos familles peut-être aussi, ou des rencontres avec des chrétiens d'autres arrière-plans, on a chacun, je pense, des domaines où on a bien saisi les implications de la foi chrétienne pour une partie de notre vie, où on peut aider d'autres gens à avancer dans leur compréhension. On a chacun aussi des points où on n'a peut-être pas bien compris et on a besoin de l'éclairage de quelqu'un d'autre. Mais le tout dans un environnement où on fait pleinement partie de la communauté, puis on cherche à grandir ensemble, dans l'unité, en louant Dieu d'une seule voix. Et j'aimerais nous laisser pour un temps de réflexion qui va suivre cette prédication. Trois questions à méditer. Une, c'est quelle attitude est-ce que j'adopte face à un chrétien avec qui j'ai des désaccords sur un point secondaire? Comment est-ce que je considère cette personne? Quelle est mon attitude? La deuxième, c'est quel regard je pose sur les autres chrétiens qui m'entourent? Est-ce que je les vois comme des gens pour qui Jésus-Christ est mort, qui l'aime, qui m'appelle à aimer, à accueillir aussi? Et le troisième, c'est qu'est-ce qui pourrait m'aider à adopter le regard et l'attitude de Jésus-Christ dans mes relations? Amen.
Merci beaucoup, Virginie. Je vous invite à prendre un temps de réflexion, un temps de méditation, à peut-être laisser les trois questions et puis à vous poser la question à quel point ça me rejoint comme question. Vraiment, il y a un temps où on peut réfléchir à ça. Si quelqu'un a aussi une parole, une prière, un témoignage, quelque chose à partager, avant qu'il passe avec le micro sans fil, donc simplement lever la main et passera la main.
C'est la première fois qu'on vient ici avec mon épouse et je voulais juste vous partager la réponse à une prière que j'ai fait il y a quelques semaines. Je suis un fervent lecteur et admirateur de Erino D'Apozzo, que certains certainement connaissent, et j'ai été très touché par le témoignage de ce frère qui est décédé en 1975-76, et ce frère m'a laissé dans mon cœur quelque chose d'extraordinaire. C'est comment aimer Jésus concrètement chaque jour. Et puis j'avais fait cette prière dans mon cœur, je savais qu'il avait sa famille à Belp, petit village de Suisse, et dans mon cœur je me disais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de sa famille un jour. Alors j'avais dit à mon épouse, je vais aller dans le village et j'aimerais bien rencontrer des membres de la famille de ce frère qui a laissé un témoignage si extraordinaire. Il a souffert dans les camps, ça a été un témoin formidable. Quand il était dans le train pour aller dans un camp pendant la guerre, il a dit, je n'en veux pas à Dieu, c'est que Dieu a un plan pour moi dans ce camp. Et il a vécu des choses qui seraient trop longues à raconter, je pourrais vous en parler pendant des heures, tellement je trouve cela passionnant. Et dans ma prière, j'ai souhaité rencontrer quelqu'un qui le connaissait. Et puis je suis allé à une petite réunion de maison, où je vais retrouver quelques frères et sœurs. Et alors qu'après le culte, je témoignais de l'attitude merveilleuse de ce frère, si simple mais si puissant, rempli du Saint-Esprit, toujours joyeux malgré les épreuves. J'étais en train de parler de ce frère, puis derrière moi j'entends une voix d'une jeune femme qui vient me dire « Je vous ai entendu parler d'Erino D'Apozzo, ben c'est mon grand-père. » Et donc c'est comme ça qu'on a connu Prisca et Xavier. Et que voilà, un lien s'est créé suite à cela. Et je dis vraiment merci Seigneur parce qu'il a répondu à notre prière. Voilà. Soyez bénis.
Un encouragement pour tout le monde, parce que je peux dire que j'ai aussi confirmé mon amour pour le Seigneur et de le suivre par Erico D'Apozzo aussi. J'étais en Suisse allemande à ce moment-là. J'étais née dans une maison, dans une famille chrétienne. Je baignais là-dedans. Et puis, bien sûr que je suivais l'église, je suivais l'école du dimanche comme tout le monde. Mais là, quand j'ai entendu le témoignage d'Erico et tout ce par là où il avait passé, je me suis posé une question. Est-ce que toi, André, tu arriverais à tenir le coup? Est-ce que tu as donné vraiment ta vie à Jésus? Est-ce que tu pourras tenir comme lui? Alors je crois que c'est à ce moment-là que j'ai marqué cette pierre pour moi de la conversion.
Merci pour ce témoignage. J'aimerais juste te remercier, Seigneur, pour cette œuvre que tu continues à faire dans les cœurs au travers de mon grand-père, effectivement, et qui a impacté la vie de beaucoup de personnes. Je te remercie aussi de continuer à travailler le cœur de tous ceux qui œuvrent pour la propagation de ta parole dans le monde entier, que eux aussi ne le voient pas de leur vivant. Toi, tu sais qui tu touches et quand tu les toucheras, et que nous puissions te faire confiance que quand on t'éloigne de toi, eh bien, c'est toi qui t'occupes du reste. Amen.
Merci Père aussi pour ton Esprit Saint. C'est vrai Seigneur Jésus que des fois il nous semble tellement difficile, comme nous l'avons chanté, nous sommes tellement fragiles, mais il y a ton Esprit Saint. Et Seigneur, c'est une aide, ce consolateur est une aide pour nos cœurs, Seigneur, pour s'ouvrir, pour non seulement se tolérer, Seigneur, mais pour s'aimer. Alors Seigneur Jésus, que tu puisses nous ouvrir à cet amour que nous recevons de toi, Seigneur, cette base, ce fil électrique, cette électricité qui est dans une maison. Mais Seigneur, que nous puissions être la prise, que cet Esprit Saint peut être la prise qui nous relie à toi. Et Seigneur, que nous puissions nous illuminer pour toi et partager, Seigneur, cet amour que tu as pour chacun d'eux, chacun d'entre nous et chacune personne, Seigneur, que nous côtoyons, chrétien ou non, voisin, ami. Et Seigneur, que nous puissions être tes témoins, Seigneur, d'un amour si immense. Seigneur, que tu nous utilises, Seigneur, comme témoins de cet amour pour chacun d'eux. Amen.
Simplement par chanter une prière à Dieu de ouais, Seigneur, unis-nous tous. Tu vois, notre assemblée, Seigneur, on est rassemblés en ton Seigneur, au nom de ton amour. Et on veut délaisser vraiment tout ce qui. Toutes nos petites querelles de nourriture, nos jambons, nos carottes. Pour se concentrer sur toi, Seigneur, sur toi qui es important, sur ton amour, sur ta paix, sur ta joie, Seigneur, et qu'on puisse être un témoignage vivant de comment tu nous as aimés. Je vous invite à chanter le refrain de ce chant, en chantant en nous. Échange nos cœurs gravés de pierre contre ton nouveau cœur de chair, éclaircement de ta lumière, consacre-nous à ton œuvre, Père, Seigneur.
Échange nos cœurs gravés de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-nous à ton œuvre, Père. Échange nos cœurs gravés de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-nous.
Je vous inviterai à vous lever pour un dernier chant qu'on va chanter ensemble. Nous allons chanter Abba, ce qui veut dire Papa. Père, nous sommes à toi. Nous voulons rester dans ton amour pour le reste de notre semaine, Seigneur. Nous voulons pas oublier que tu qu'elle a bien au-delà du dimanche matin. Et nous voulons déclarer que, ouais, papa, nous sommes à toi.
Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me trembles de la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Sur moi sois ouvert. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras.
J'entends, je suis à toi.
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Je vous invite à rester debout pour l'envoi et la bénédiction finale. Accueillons-nous les uns les autres, car Jésus-Christ nous a accueillis. Que Dieu,
la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allons dans la paix et dans la joie de Jésus-Christ. Amen.